Carrefour.
Quand vous me dites « Carrefour baisse ses prix !»
Eh oui, et de 10% en moyenne parmi vos produits préférés d'hygiène et d'entretien. Comme la boîte de 30 protèges slip larges Carrefour Soft qui passe de 1,36€ à 99 centimes, soit 27% moins cher. Et c'est chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive et sur carrefour.fr.
Carrefour, on a tous droit au meilleur. Prix baissé à compter du 1er avril 2024 par rapport au prix permanent des produits. Détail et liste des produits concernés sur carrefour.fr.
Vous écoutez
RMC. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
C'est la dernière partie d'Estelle Midi sur RMC, RMC Story. On est avec vous jusqu'à 15h, toujours avec Rémi Barré et le journaliste Thierry Moreau, la militante associative Anne-Sophie Saint-Père, le journaliste Fred Hermel et puis le chef du service politique Jérémy Trottin. Pourquoi Jérémy Trottin est avec nous? Eh bien parce que il se passe énormément de choses. Aujourd'hui, le vote, bien sûr, de la réforme des retraites à l'Assemblée nationale. Emmanuel Macron souhaitait un vote, mais depuis quelques minutes, eh bien, il y a du changement dans l'air, Rémi Barré.
C'est ce qui se dit selon plusieurs sources, sources BFM TV et sources également de l'AFP, de participants à la réunion qui a eu lieu à la mi-journée à l'Élysée, qui rassemblait des ténors de la Macronie, mais également des poids lourds du gouvernement, dont la première ministre Elisabeth Borne. Donc, il se dit que Elisabeth Borne était hostile au recours au 49-3, mais que faute d'une majorité suffisante assurée à l'Assemblée cet après-midi, pas assez de votes LR ou centristes acquis, eh bien la Première Ministre aurait changé d'avis durant la matinée. Elle serait désormais favorable au recours au 49-3. Elle aurait même déclaré, selon un participant à la réunion de ce matin, qu'elle acceptait d'être un fusible en cas de recours au 49-3, donc d'accepter une motion de censure qui pourrait éventuellement faire tomber son gouvernement. Voilà où on en est. Ce qu'on sait également, c'est que Emmanuel Macron, après avoir rencontré en début de matinée, à la mi-journée, la Première Ministre, la rencontrera une dernière fois juste avant 15h, juste avant le début de la séance à l'Assemblée.
On a quand même une impression de grand n'importe quoi, Jérémy Trottin.
De grand n'importe quoi, je ne sais pas. Si vous voulez, ça fait quand même un moment qu'on voit bien que cette réforme des retraites est un petit peu mal emmanchée.
Oui, oui.
Elle n'a pas été très bien vendue.
Vous restez poli et aimable.
Elle n'a pas été très bien vendue. Elle fait à l'unanimité contre elle. Il y a encore presque 7 Français sur 10 qui sont opposés à cette réforme, 9 salariés sur 10. Et malgré tout, on a vu à l'occasion de ces dernières semaines qu'il y avait comme une forme d'entêtement de la part du gouvernement, avec aussi des difficultés de communication. Nous souvenons-nous de cette pensée à 1 200 €, certaines personnes ayant compris que tout c'était finalement le minimum vieillesse qui arriverait à 1 200 €, mais pas du tout. Donc voilà, la question des femmes aussi. Donc si vous voulez, on a bien vu qu'il y avait quand même des difficultés pour vendre cette réforme, et on arrive là au moment fatidique, au moment où cette réforme est censée être votée. On arrive à un moment où à l'Assemblée nationale, il n'y aurait visiblement pas assez de voix pour voter ce texte. Alors, les derniers décomptes donnaient quand même ce matin 2 à 3 voix qui permettaient de voter cette réforme.
Mais bien
sûr, c'est risqué, il n'y a pas de compte parfait. Parfois aussi, il y a du poker menteur. Il y a certains députés qui peuvent dire qu'ils votent pour le texte et puis s'abstenir au dernier moment. Et quand ça se joue à si peu de voix, en réalité, ils jouent un petit peu à l'aveugle en ce moment de l'exécutif. Donc, c'est pour ça qu'on a vu aussi toutes ces réunions ce matin. La première à 8h15 autour du président de la République, la seconde à midi, Elisabeth Borne qui est priée de revenir avant l'ouverture des débats à l'Assemblée nationale. Pourquoi ? Pour se donner justement la possibilité, en effet, de déclencher ce fameux 49-3, parce que pour déclencher un 49-3 à l'Assemblée nationale, il faut d'abord le faire valider par un Conseil des ministres.
Donc on devrait le savoir dans les secondes qui viennent, quoi.
Dans les secondes, il est à 14h07, oui. Donc oui, d'ici une demi-heure, l'affaire est pliée. Oui. Après, en fait, il y avait presque que des mauvais choix.
Oui,
aujourd'hui. C'est-à-dire que vous passez au vote avec la possibilité que cette réforme ne passe pas. Alors déjà, sur la suite du quinquennat, c'est particulièrement difficile pour Emmanuel Macron de se relancer, surtout quand vous avez été ce président réformateur pendant le premier quinquennat. Donc en fait, ça casse quand même pas mal votre image et votre capacité à réformer le pays. En plus de ça, ça envoie aussi des mauvais signaux à l'international, à un moment où quand même on est dans une situation très compliquée d'un point de vue géopolitique, diplomatique et économique. Et puis, donc, c'est ne pas obtenir ce vote et le risquer peut avoir d'énormes conséquences à la fois politiques et institutionnelles, parce qu'on imagine bien derrière un remaniement avec aussi cette dissolution qu'a fait planer le chef de l'État dans la nuit pour essayer de mettre sur la pression sur les députés. Visiblement, ça n'a pas été très efficace ou peut-être même un peu contre-productif. Donc voilà, si vous voulez, on arrive à un moment où le gouvernement n'est que face à des mauvais choix, 49-3, prendre le risque d'avoir cette réforme qui n'est pas votée à l'Assemblée, avec des risques politiques importants derrière.
Thierry Moreau, bonne ou mauvaise nouvelle finalement, ce recours au 49-3 qui se précise et qu'on n'attendait pas forcément quand même.
Non, on ne l'attendait pas forcément, parce que c'est vrai que, comme l'a dit Jérémy, ces derniers jours, on était plutôt sur un calcul qui était plutôt positif à quelques voix près. Après, le poker menteur, il peut aussi se faire dans l'autre sens, c'est-à-dire que ce sont des gens qui ont prétendu voter contre peuvent aussi s'abstenir sans pour autant voter pour. Donc en fait, on est dans une incertitude totale. Moi, ce qui me surprend le plus dans cette histoire, c'est l'inconfortabilité des députés les Républicains qui ont leur base, je pense, dans leur circonscription, qui est plutôt contre cette réforme, et le fait de faire partir d'une famille politique qui a obtenu des concessions depuis plusieurs jours, et encore plus hier au moment de la commission mixte paritaire, quasiment toutes les concessions demandées par les LR ont été acceptées pour le texte final. Donc il y a un inconfort de ces... Est-ce qu'on n'est pas en train d'assister là actuellement à une explosion de la famille des LR qui va se scinder en deux ou en plusieurs parties?
Là, il y a un urgent de l'AFP qui tombe, retraite, nouvelle réunion de crise à l'Élysée avec ministre est responsable de la majorité. Donc on rediscute. On refait un point.
Dites donc, ils vont faire leurs 10 000 pas, hein, tous aujourd'hui. Hein. C'est hallucinant. Anne-Sophie Saint-Père, est-ce que ce serait choquant pour vous si Emmanuel Macron avait recours au 49-3?
En fait, pour moi, tout ce processus a été choquant, choix du véhicule pour une réforme sociale énorme, l'utilisation de l'article 38 au Sénat, etc. Donc, ce ne serait qu'une conclusion. Après, moi, je pense que les députés LR, bien au contraire, pourraient être arrangés, parce qu'en fait, il y en a pas mal qui avaient sans doute pas très très envie d'aller au vote, et qui du coup vont pouvoir se cacher derrière le 49-3 par rapport aux électeurs. Voilà, mais l'inconfort
pas
peut venir
non plus,
du fait de voter
qui n'ont pas trop
une
intérêt à une dissolution et un retour à des législatives.
Ouais. Alors sur les dissolutions, à ce stade, ayant poussé très fort pour une réforme très impopulaire, c'est pas, enfin, En Marche, c'est pas forcément, ou En Marche, Renaissance n'est pas forcément dans une très bonne posture. Et les sondages montrent que ce seront ceux qui perdront des voix. Les Républicains en perdront pas forcément autant que Renaissance.
C'est un jeu extrêmement dangereux. On attend vos appels d'ailleurs au 32-16 pour nous dire ce que vous pensez de ce 49-3 qui se précise. Est-ce que c'est choquant pour vous et voilà, on continue à en parler jusqu'à la fin de l'émission. Fred Hermel, les syndicats nous promettaient déjà une contestation qui allait continuer s'il y avait vote à l'Assemblée. S'il y a le 49-3, alors là, je ne veux pas dire que la France va être à feu et à sang, c'est peut-être un peu exagéré, mais enfin, la contestation, elle risque d'être extrêmement sévère. Il y a même des gens qui sont très modérés, qui seraient prêts à aller dans la rue si on fait usage du 49-3.
Je n'y crois pas.
Ah d'accord.
Je n'y crois pas. Enfin, ce que je sache, si ça a changé, mais c'est, nous sommes dans une démocratie, c'est dans la Constitution de 1958.
Alors, c'est pas un processus très démocratique quand même, je suis désolé.
C'est démocratique. Ouais, on peut dire que ce n'est pas légitime. C'est un échec de Macron, mais sans aucun doute.
Si c'est pas une belle image de la démocratie, c'est ça que je veux dire. Pardon.
Oui, en tout cas, c'est un échec de Macron.
C'est un passage en force.
J'aurais aimé qu'il y ait vote et qu'il y ait vote positif parce que ça redonnait du poids au Parlement. Parce que on sort d'un quinquennat où le Parlement, il y avait une telle majorité absolue de Macron, n'était que le joujou dans les mains du gouvernement. Là, le fait de devoir négocier la loi, moi, avec différents partis, moi, je trouve ça sain démocratiquement. D'ailleurs, le LR a existé de nouveau grâce aux
le vote est sain, mais le 49-3, non, tu peux pas dire que c'est sain.
Non, mais parce que il va le faire parce qu'il peut pas perdre.
Ah bah donc c'est pas sain.
Donc voilà, mais après.
Bah, c'est comme
après,
si
moi,
t'es dans un match, t'arrives pas à gagner, tu triches.
C'est pas de la triche. Si tu parles de la métaphore footballistique, tu peux pas le gagner. Qu'est-ce qu'on dit? Bah, vaut mieux pas essayer de le perdre. Tu vises le match nul.
Ouais, mais là, tu risques de perdre gros quand même.
Non. Bah, alors si, après, non. La question. Moi, je me projette déjà après. La motion de censure, c'est très simple. Si c'est le RN, elle passera pas, puisque les filles ne voudront pas la voter. Si la motion de censure est proposée par LFI,
elle va être proposée par Charles de Courson, qui est centriste. Bah,
c'est la question que j'arrive. La question, c'est la question que je voulais évoquer. Donc, si c'est l'extrême droite, ça passera pas. Si c'est l'extrême droite, ça passera pas. Si elle est transpartisane, donc elle vient du centre. Charles de Courson, c'est plutôt.
Plutôt c'est centriste, oui.
Plutôt droite quand même. Hein, enfin, je veux dire, voilà.
Entre droite.
Ces députés LR dont tu parlais là, est-ce qu'ils vont voter parce que LR, ils n'ont pas fini avec leurs histoires. Entre ceux qui vont voter la motion de censure et ceux qui ne vont pas voter la motion de censure. Parce que s'ils veulent une dissolution, voter pour la motion de censure, là on va droit vers la dissolution après, quoi. C'est clair. Ça fait tomber le gouvernement. Alors, et là Macron il recommence tout là.
Hein. Il rebat les cartes.
Jérémy Trottin, justement, s'il y a 49-3, s'il y a ensuite motion de censure, hier, Charles de Courson était l'invité d'Apolline de Malherbe et il a dit, il va déposer justement une motion de censure. C'est quoi la suite ?
La suite, en fait, si le 49-3 est enclenché aujourd'hui, il y a 48 heures pour qu'en effet les groupes parlementaires déposent une motion de censure. Alors, il y a déjà en effet Charles de Courson qui a dit qu'il le ferait. Et à l'issue de ce délai, il y a encore 48 heures pour l'examiner, ce qui fait que cette motion de censure pourrait éventuellement, si il y a 49-3, si elle est déposée dans les temps, elle pourrait éventuellement être examinée. Autour de lundi, c'est sans doute fin de week-end ou en début de semaine prochaine. Et là, le risque, en effet, c'est que cette motion de censure recueille un maximum de suffrages. On ne compte que les personnes qui participent. On ne compte que les personnes qui participent à ce vote. Il faut en effet une majorité, donc il faut au moins 289 voix. Et dans ce cas-là, le gouvernement tombe. C'est-à-dire que le 49-3, il implique la responsabilité du gouvernement, de la première ministre et de l'ensemble du gouvernement. Et si cette motion de censure est votée, alors c'est le gouvernement qui tombe.
N'a plus la confiance du Parlement.
N'a plus la confiance du Parlement et qui tombe. Donc en fait, on tomberait dans une crise aussi institutionnelle. C'est-à-dire que derrière,
un Premier ministre ou une Première ministre.
Renommer un gouvernement. Oui, mais il faudrait aussi peut-être essayer de voir s'il y a possibilité de créer une majorité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit bien que quand vous êtes face à une réforme de fond telle que celle de la réforme des retraites, vous n'avez pas de majorité pour la faire voter. Donc, au-delà de nommer un simple nouveau Premier ministre, il faudra peut-être aussi un petit peu reconstituer une majorité. Ça va être difficile parce que si DLR vote la motion de censure, comment faire rentrer d'autres LR au gouvernement pour créer une nouvelle majorité? Enfin bref, c'est quand même assez compliqué. Ils sont déjà dans le gouvernement. Donc,
non, mais puis s'il y a un nouveau gouvernement, il doit passer par le Parlement pour la confiance. Il faut faire voter la confiance du gouvernement.
Donc il faut une majorité.
Et ben voilà.
Il faut redessiner les contours. En fait, c'est vrai que si on passe à un 49-3 ou si on va au vote mais que la réforme n'est pas votée cet après-midi, de toute façon c'est une crise institutionnelle et politique d'ampleur qui s'ouvre et qu'on aura face à nous.
Et la dissolution ?
Et la dissolution, en fait, ça fait quand même, c'est pas la première fois que Macron sort la carte de la dissolution. La difficulté pour lui aussi, c'est qu'en fait, il y a des chances qu'elle ne lui soit pas complètement favorable. Les derniers sondages montrent que les partis qui perdraient des sièges sont justement Renaissance, la majorité et les LR. Ouais. Et en revanche, le Front National progresserait d'une dizaine de
sièges. Il sera encore plus en difficulté à l'Assemblée.
Et la
RN
soumise, la NUPES gagnerait encore des sièges.
Vous restez avec nous, Jérémy Trottin, chef du service politique d'RMC. On continue à parler de cette réforme des retraites. Elle devrait être votée dans 44 minutes à l'Assemblée nationale. Dans ces 44 minutes, il peut se passer énormément de choses.
Vote 49-3.
Et voilà, vote 49-3. On attend peut-être la convocation d'un conseil des ministres extraordinaire pour justement voter la possibilité d'un 49-3. Il se passe énormément de choses. Vous êtes très nombreux à nous appeler au standard, à la fois pour poser vos questions à Jérémy et puis pour nous dire ce que vous pensez de la situation actuelle. On aura Antoine, tiens, qui nous appelle au 32-16. Et puis vous, bien sûr, n'hésitez pas à nous appeler, à nous laisser des messages sur l'appli RMC. On se retrouve dans un instant dans Estelle Midi pour parler de cette réforme des retraites. À tout de suite.
RMC, midi 15h.
Estelle Midi.
RMC.
Ah, j'ai trouvé un super concept d'émission. Si tous les après-midi, on réunissait une bande autour de moi, toi, pour parler de sport dans la bonne humeur.
Bah, ça existe déjà, Vincent.
Ah oui, et ça marche?
Bah, hyper bien. C'est un succès depuis 15 ans sur RMC.
Ah, ben tu vois, je savais que c'était une bonne idée.
Mais Vincent, c'est le Super Moscato Show. C'est ce qu'on fait depuis 15 ans tous les après-midi sur RMC. 15h, 18h. Ça te dit rien?
C'était vraiment une bonne idée, alors.
Bah oui, le Super Moscato Show, du lundi au vendredi, 15h-18h, sur RMC.
Votre émission sur RMC, avec Shine. Compte pro, carte, facturation, gestion des dépenses en équipe. Shine, le compte qui libère le potentiel des pros.
Envie de parier sur le sport? Avec en moyenne plus de 50 paris possibles par match, des offres qui suivent l'actualité et un bonus de bienvenue irrésistible, Winamax est le site idéal pour débuter. En live, sur tablette ou mobile, vous êtes sûr de profiter des meilleurs codes du marché.
Winamax, le plus important, c'est de gagner.
Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.com et au 09 74 75 13 13, appel non surtaxé.
Retour à l'antenne avec Thomas Decan qui nous dit L'arrivée du printemps me donne des envies de changement pour la maison. Des bons plans ?
Thomas, c'est la dernière ligne droite pour aller chez Castorama profiter de l'opération Hello les promos. Des bons plans qui n'attendent que toi dans tous les rayons, pour l'intérieur comme pour l'extérieur.
Alors Thomas, tu y es pas déjà ?
Vite, vite ! Chez Castorama, ce sont les derniers jours de l'opération Hello les promos, avec des bonnes affaires à saisir dans tous les rayons. Venez vite en profiter, mais attention, c'est seulement jusqu'au 20 mars.
Castorama, changer nous fait avancer.
Hello, bonjour.
Avec But, on apprécie la livraison express sur la cuisine. Pas une petite barquette de surgelée au micro-ondes. Non, non, la cuisine en entier avec les tiroirs, les placards.
En ce moment, But s'engage à vous livrer votre cuisine dès 10 jours. Choisissez votre modèle sur mesure dans la gamme signature essentielle et 10 jours après, elle sera chez vous.
C'est rapide, hein ?
Conditions de l'offre et modèles concernés en magasin et sur but.fr.
Face à l'inflation, chez Auchan, notre mission est de vous permettre d'acheter ce que vous voulez, pas seulement ce que vous pouvez, avec des prix bas, pour des produits bons, frais et sains. Dès maintenant, nous bloquons les prix de 150 produits du quotidien. Un engagement qui s'ajoute à toutes nos solutions anti-inflation. C'est ça, vous faire plaisir. Toujours au bon prix, chez Auchan.
Auchan, avec plaisir.
Jusqu'au 15 juin, retrouvez nos 150 produits du quotidien à prix bloqué, identifiés dans nos hypermarchés, supermarchés et drive Auchan.
Que vous ayez envie d'un store ban grand ou très grand, d'une pergola à lame ou à toile, de store intérieur, de volet, d'une porte d'entrée, d'une porte de garage ou d'un portail, rendez-vous dans votre magasin Monsieur Store ou sur monsieurstore.com. En ce moment, moins 25% sur les produits privilèges. Oui, oui, moins 25%. Monsieur Store, le premier réseau qu'on recommande à ses voisins. Voir conditions détaillées en magasin.
Lidl, réélu encore et encore, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie supermarché.
Allô patron, ils remettent le paquet.
Pour Pâques ?
Très oui. En ce moment, le moulage en chocolat au lait, poule, canard ou lapin est à 1,79€ les 125 grammes.
1,79€ le moulage en chocolat au lait, pour Pâques.
Ça c'est sûr, hein. Au ras des pâquerettes le prix, patron.
On est mal.
Lidl, trop fort sur les prix depuis 13 ans et c'est vous qui le dites. Étude Kantar Prométhée Cancet 2022. 14,32€ le kilo, offre valable jusqu'à épuisement des stocks. Plus d'informations sur Lidl.fr. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés.
Alors Stéphane, quoi de neuf ?
J'ai ouvert ma boutique Groupe Verlaine.
Ta boutique ?
Oui, c'est les experts en travaux de rénovation énergétique.
Mmh. Pas besoin d'être un pro.
Groupe Verlaine te fournit un secteur de 35 000 maisons à rénover. T'as juste besoin d'accueillir les clients et d'un simple clic, un expert prend le relais en visio.
Ah ouais, et ça coûte cher ?
J'ai investi 30 000 euros de droits d'entrée, plus l'aménagement de ma boutique.
Pas besoin d'agrément ou de stock ?
Non, et cerise sur le gâteau, t'es payé en fin de mois sur chaque devis signé. Vas-y, c'est simple, inscris-toi sur groupeverlaine.com.
Ah, j'y vais de suite !
Groupe Verlaine, le climat de confiance.
Chez Optique 2000, on se dépasse pour trouver les lunettes tendance parfaites pour votre style. Augustin, opticien à Rambouillet, nous explique comment choisir la bonne paire de lunettes.
Selon la forme du visage, la couleur des yeux, de votre teint, la couleur de vos cheveux, on sélectionne différentes montures et puis on passe aux essayages pour trouver le style qui correspond le mieux à votre visage et à votre personnalité.
Pour trouver la monture qui vous ressemble, prenez rendez-vous avec votre opticien. Optique 2000, on va se revoir. Dispositif médical, demandez conseil à votre opticien.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis. C'est la dernière partie d'Estelle Midi sur RMC. RMC Story, une dernière partie un peu spéciale. On parle bien sûr de cette réforme des retraites qui devrait être votée à l'Assemblée d'ici 39 minutes maintenant exactement. On en parle avec Rémi Barré, Thierry Moreau, Anne-Sophie Saint-Père, Fred Hermel et avec Jérémy Trottin, chef du service politique d'RMC. On en est où exactement, Jérémy? Pendant toute la pub, je vous ai vu activer frénétiquement votre téléphone.
Oui, on cherche à savoir précisément si un conseil des ministres a été convoqué, parce que c'est ça qui va nous donner finalement le là. On va savoir si, en fonction de ça, s'il y a 49-3 ou si le chef de l'État a décidé d'aller au vote cet après-midi à l'Assemblée nationale. Donc évidemment, on pose des questions pour vous répondre très concrètement. Pas vraiment de réponse du côté de l'Élysée. Alors on essaye dans ces moments-là de passer par un certain nombre de sources, ça peut être des conseillers, ça peut être des ministres, ça peut être des proches du chef de l'État. Enfin, on essaye de s'informer de cette façon-là, essayer de rassembler un maximum d'informations. Mais c'est vrai que le détenteur de la réponse actuellement, c'est uniquement Emmanuel Macron. Donc, il lui reste à ce stade 38 minutes. On pourrait, je crois qu'il est occupé. Donc il lui reste à peu près 38 minutes pour dire grosso modo et pour faire savoir quelle est sa décision. Là, ce qui est intéressant de voir, c'est que au-delà des ministres qui ont été convoqués pour une une dernière réunion encore, c'est la troisième depuis ce matin à l'Élysée. Il y a aussi des cadres de la majorité. Donc il n'y a pas que des ministres. Donc pour le moment, ce n'est pas, on n'est pas dans un format Conseil des ministres. Donc a priori, la logique voudrait qu'il annonce sa décision à l'ensemble des partenaires de la majorité et des ministres présents et qu'en fonction de sa réponse, il y ait à l'issue un Conseil des ministres si sa décision était celle de déclencher le 49-3. Le 49-3, c'est pas anodin. On l'a vu, beaucoup de manifestants disent qu'il faut absolument pas passer cette réforme par le 49-3 parce que c'est beaucoup trop brutal. Les syndicats ont même dit que si la réforme était votée pour certains, la lutte s'achèverait. En revanche, si ça passait par un 49-3, on va continuer à manifester contre cette réforme, ce déni de démocratie. Donc en fait, le 49-3 impliquerait aussi la poursuite du mouvement social parce que ça donnerait l'impression que le gouvernement a perdu une manche supplémentaire. Donc, il est possible encore de gagner quelque chose et de faire en sorte que cette réforme, pas aujourd'hui, pas demain, mais dans quelques semaines ou quelques mois, soit encore retirée. Donc,
ça permettrait aussi peut-être du 49-3 de passer à autre chose. Voilà, on le dit aujourd'hui, l'actualité, c'est pas que les retraites. Les Français ont peut-être aussi envie d'autre chose.
Le risque, en fait, c'est d'attiser et de prolonger le mouvement social et aussi de créer dans l'opinion publique une forme de colère profonde, parce que c'est vrai que le 49-3, les Français l'ont peut-être découvert récemment ou redécouvert, mais ça laisse des traces, le 49-3. Dans les familles, on en parle. C'est quand même quelque chose qui remonte, c'est-à-dire que tout ça est fait de manière assez autoritaire, et le faire sur une réforme qui est aussi impopulaire, c'est quand même extrêmement compliqué.
Vous êtes très nombreux à nous appeler au 32-16 pour réagir, et Antoine nous appelle de Saint-Pierre-de-Lille en Charente-Maritime, il est chauffeur routier. Bonjour Antoine.
Ouais, salut tout le monde, ça va ?
Mais oui, très bien Antoine. Bonne ou mauvaise nouvelle pour vous ce 49-3 ?
Éventuel.
Éventuel, évidemment.
C'est une bonne et une mauvaise nouvelle. On va dire honnêtement, c'est une bonne nouvelle pour tous les nationalistes, parce que honnêtement, nous, c'est ce qu'on attend. Voilà, on attend seulement que, tout simplement, que le gouvernement passe en force, parce que nous, ça nous ouvre les portes à ce qui va se passer après. Donc après, les mères de famille et les enfants vont rentrer chez eux, ce qui est normal, parce que là, avec le nombre de jours de mobilisation, automatiquement, les gens, ils sont aux abois. Et après, c'est nous qui allons prendre la relève.
Et ça là, veut dire quoi, le gouvernement?
Mais le nationaliste, c'est qui? C'est le RN, c'est ça?
Je comprends pas ce que vous voulez dire.
Ah non, c'est même pas le RN.
Ah bon?
Moi, j'ai été Front National il y a quelques années. D'accord. J'ai été extrêmement déçu. Là, c'est carrément, là, quand on parle de nationaliste, moi, je suis breton. Nationaliste en 2013, on nous a vus dans la rue. On sait.
D'accord, mais en fait, ce que vous dites, Antoine, c'est que vous descendez dans la rue s'il y a un 49-3, en fait.
Ah ben, on descend dans la rue, mais il n'y aura pas que ça. On ne va pas que descendre dans la rue, applaudir dans les ronds.
Vous allez faire quoi?
On va y chercher les responsables de ce fiasco. Et très bien, on est sûr et certain, on va les trouver.
Ouais, d'accord. Non, mais là, vous pouvez pas dire ça, Antoine. Vous pouvez pas menacer comme ça. C'est impossible. Enfin, voilà. Déjà, en plus, il y a peut-être même pas de 49-3. Ah,
on est loin du processus démocratique qu'on est en train de vivre là en direct.
On est assez loin de l'apaisement également. On est avec Roger également, qui est retraité et qui nous appelle de Craponne, du côté de Lyon. Bonjour, Roger.
Oui, bonjour à tous.
Et vous vouliez parler de la situation actuelle. Voilà, la réforme des retraites devrait être votée dans 34 minutes, mais il se passe beaucoup de choses.
Oui, alors pour moi, le 49-3 est peut-être dans la Constitution, c'est peut-être légal.
Ouais, c'est pas peut-être, c'est sûr.
Non seulement antidémocratique, mais je vais carrément dire plus fort, c'est une forme de dictature, carrément.
Ah ben bah non, mais c'est démocratique.
Ah oui,
hein.
On sent la colère. Un minimum de personnes dans un gouvernement peuvent décider de faire des lois. L'Assemblée nationale, normalement, elle a été créée pour ça, faire des lois, pour les voter, pour les faire appliquer.
Non, mais les députés ont le dernier mot, puisque si une majorité de députés ne veut pas que ce texte passe par 49-3, il y a le vote d'une motion de censure. Et qu'une fois qu'on vote cette motion de censure, si une majorité de l'Assemblée des députés représentant le peuple décide que le gouvernement doit tomber, il tombera.
Oui.
Mais le 49-3, d'ailleurs, je ne sais pas, moi je ne suis pas spécialement pour Marine Le Pen, mais si vous avez tous écouté hier, elle a dit qu'elle le supprimerait s'il était élu.
Enfin, elle n'est pas encore élue.
C'est quelque chose qui devrait être supprimé.
Et c'est un député écologiste aussi qui a demandé la même chose et qui voulait justement supprimer
le 49-3. Ça, c'est autre chose. Antidémocratique, c'est tout. C'est
Mais c'est une question qui se pose.
Voilà.
Bah merci Roger, en tout cas d'avoir été avec nous. On sent énormément de colère, ouais. Jérémy, du côté des auditeurs. Et c'est vrai qu'il y avait eu une proposition justement d'un député écologiste dont le nom m'échappe, qui voulait faire supprimer le 49.3. Et quand on voit tous les remous qu'il y a autour de ça,
il a été restreint déjà. On parlait tout à l'heure du sondage Elabe pour BFM TV qui a été dévoilé hier.
Rémi Barret,
80%. 80% de ceux qui sont prononcés sur les réseaux sociaux sont hostiles au recours au 49.3 et toute orientation politique confondue, y compris chez les macronistes.
Oui, parce que c'est en fait d'une part, vous avez une réforme impopulaire et vous avez un procédé jugé antidémocratique. Donc quand vous cumulez les deux, c'est naturellement un cocktail assez dangereux en réalité pour le gouvernement, mais je peux vous assurer que la majorité en a conscience. Hier, je déjeunais avec un député qui a été conseiller d'Emmanuel Macron et qui échange encore très régulièrement avec le chef de l'État. Le 49.3 est un vrai sujet pour lui parce qu'il estime déjà qu'ils ont une image d'un gouvernement qui agit par la brutalité. Et rajouter de la brutalité à la brutalité pourrait provoquer dans l'opinion quelque chose qu'on ne maîtrise pas encore. On a vécu les gilets jaunes.
Quand on entend les auditeurs, on commence à le maîtriser.
On a une population qui a des raisons aussi de protester au-delà de la réforme des retraites. Il y a l'inflation, le pouvoir d'achat, la situation. Il y a quand même beaucoup de motifs à la colère. Et donc, ils ont quand même, malgré tout, conscience de ça. Mais ils sont dans une telle situation politique qu'il ne leur reste peut-être que cette arme-là. En tout cas, jusqu'à encore ce matin, l'option privilégiée par le chef de l'État, par Emmanuel Macron, c'était d'aller au vote. Après, Emmanuel Macron a toujours tendance à vouloir aller au vote et aller un peu à l'encontre de tous les conseils qui peuvent lui être donnés, parce que s'il a toujours, sa construction, c'est ça, il s'est toujours construit contre les autres, il a toujours fini par gagner ou avoir raison. Donc attendons de voir quelle sera sa décision d'ici à une demi-heure. Maintenant, ça va être extrêmement rapide. Mais la question du 49.3 est un vrai sujet de société, un vrai sujet démocratique. Et en plus de ça, ça pourrait aussi provoquer la chute du gouvernement à l'issue d'une motion de censure. Donc en fait, la journée d'aujourd'hui est capitale, mais les prochains jours, tout autant.
On entend quand même Thierry Moreau, vous disiez tout à l'heure avec Fred Hermel, non, mais même s'il y a le 49.3, ça passera. On entend quand même une vraie colère de la part des gens, parce que oui, bien sûr que c'est démocratique le 49.3, ok, ça fait partie des outils parlementaires, il n'y a pas de souci, mais c'est vrai que c'est un passage en force, c'est vrai que sur un dossier aussi important que celui-là, ça fait désordre.
Le problème, c'est que cette histoire est mal commencée, mal née depuis le début. Oui. Parce qu'il n'y a pas eu de négociation, il y a eu le fait de bypasser les corps intermédiaires, et notamment Laurent Berger qui était prêt à discuter d'une réforme de retraite qui pouvait lui convenir. Donc il y a eu des erreurs de communication, vous l'avez rappelé, sur les 1 200 € pour tout le monde. Donc on enfile en fait une succession de très mauvaises séquences qui se terminent là. Maintenant, moi, je rejoindrais plutôt Fred, c'est-à-dire que je pense qu'une fois que le 49.3 sera déclenché, dans 3, 4, 5, 5, 6 semaines, on aura oublié, on sera passé à autre chose, parce que je pense que nos auditeurs et les Français, ils ont d'autres préoccupations, c'est-à-dire la viande coûte très très cher en supermarché.
Mais ils sont en colère.
Je ne dis pas que ça va faire abaisser la colère. Je dis que la contestation sur la réforme des retraites, elle peut se transformer en une autre contestation. Mais c'est la réforme des retraites, ça sera terminée.
Si vous rajoutez de la contestation, ça va pas être bien.
La colère.
Emmanuel Macron a, dans le cadre d'une majorité relative, a encore besoin de ce 49.3 et pas uniquement pour les retraites. C'est-à-dire qu'il y a d'autres textes sur lesquels il aura peut-être besoin d'utiliser le 49.3.
Alors que l'usage a été réduit.
Vous en avez le droit par session parlementaire ou sur tous les textes budgétaires. Donc le dernier budget a été adopté au 49.3, celui de la sécurité sociale aussi. La réforme des retraites, peut-être, on ne le sait pas encore.
Oui, elle a été mise dans le paquet du budget justement
pour pas utiliser un nouveau 49.3, mais le 49.3, dans la situation politique dans laquelle Emmanuel Macron, c'est un outil qu'il aura encore à utiliser. Et ça, il le sait.
Se griller une cartouche.
Bien sûr.
Continuez à nous appeler, bien sûr, au 32-16 pour nous dire ce que vous pensez de la situation actuelle. Continuez également à nous écrire sur l'appli RMC. Rémi, est-ce qu'on a quand même des messages favorables à cette réforme et au 49.3 ou c'est que des anti-49.3
J'ai quelques messages qui nous rappellent que le 49.3, quoi qu'on en dise, c'est un outil démocratique.
Tout à fait.
C'est inscrit dans la Constitution et que ce ne sera pas le premier gouvernement à l'utiliser. Mais après, je ne vais pas le cacher, il y a beaucoup de messages quand même de colère. Où en tout cas de gens qui nous disent, comme Michel qui nous dit par exemple, recours au 49-3, moi je ne suis pas surpris, de toute façon, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, une majorité de Français, c'est le sondage là pour BFM TV, estime que quel que soit le mode de passage du texte, qu'il passe par un vote ou par le 49-3, la mobilisation contre la réforme des retraites se poursuivra et cet épisode de la Macronie laissera des traces.
Voilà, 14h32 pour l'instant sur RMC et toujours pas de conseil des ministres en vue. Donc si ça se trouve, on va aller au vote, même si c'est extrêmement tendu. Nicolas est avec nous, paysagiste à Monteux dans le Vaucluse. Bonjour Nicolas.
Bonjour l'équipe.
Bonjour
Nicolas, vous vouliez réagir sur tout ce qui se passe actuellement à moins de 30 minutes maintenant du vote de la réforme des retraites à l'Assemblée.
Alors déjà, si on va vers le 49-3, il y a une très grosse part d'amateurisme parce que ça fait des semaines que le gouvernement fait des essaye de se rattacher les LR en faisant des concessions sur cette réforme des retraites. Si c'est pour finir au 49-3, il n'y avait pas besoin de faire des concessions.
Oui, c'est vrai. Oui, c'est assez logique. Oui, parce qu'effectivement, ils ont quand même fait beaucoup de concessions.
Réforme du Sénat. C'est la réforme de la droite sénatoriale, finalement, qui va passer au 49-3.
Mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de concessions pour rien, c'est ça qui est dingue.
Bah, pour rien, il y a quand même eu des avancées sur les mères de famille.
Oui, mais ça n'a pas convaincu les
pour l'efficacité du vote.
Pour l'efficacité, oui, ça c'est sûr. Mais à la fois, dans le cadre d'une majorité extrêmement relative, avec des alliés comme les LR qui sont très volatiles, c'est quand même extrêmement compliqué. C'est-à-dire qu'il fallait quand même apporter, vu que il y a eu des consultations avec les syndicats avant le mois de janvier, mais après c'est vrai que les négociations sont faites entre parties, soit dans le cadre du débat à l'Assemblée, soit dans le cadre du débat au Sénat, mais jamais, à aucun moment, les syndicalistes sont revenus dans le jeu. Donc malgré tout, il fallait absolument aussi que le gouvernement fasse des concessions, et donc il a fait des concessions à qui ? Au seul interlocuteur avec qui il pouvait en faire, c'était la droite sénatoriale.
Vous êtes pour le vote de cette retraite, vous, Nicolas ? De cette réforme, pardon ?
Le principal gêne dans cette réforme des retraites, c'est l'âge.
Ouais, c'est
64
ça.
Ans.
Mais comme les syndicats.
Si je peux bosser, j'ai 10 ans d'écart avec ma femme, elle est plus jeune. Si j'arrive à 64 ans, pendant 10 ans, je vais devoir l'attendre. Je n'ai pas regardé les chiffres et les lettres pendant 10 ans à me tourner les pouces.
Il y a d'autres choses à faire quand on est à la retraite, bien sûr.
Il y a autre chose à faire. Mais non, voilà, c'est cette âge buté. Autant à 60 ans, je serais rincé, je ne pourrais plus rien faire. Par rapport à mon travail, à 60 ans, il n'y a personne qui va me proposer.
Vous êtes paysagiste.
On a fait des débats là-dessus, voilà. Donc, non, moi je pense que par contre, avant de faire cette réforme des retraites, le président Macron aurait dû, suite aux élections qu'on a eues l'année dernière, c'est présenter d'abord une réforme du travail, avec peut-être une réforme du travail et de la fiscalité.
Oui. Ah, on a perdu Nicolas, mais
également la vie de tous les jours qui coûte aujourd'hui très cher, balayer là-dedans, faire des réformes là-dedans et à la fin faire sa réforme des retraites, si je pense.
Alors Nicolas, on vous entend très mal, on va essayer de vous rappeler, mais c'est intéressant ce que dit Nicolas, ça rejoint ce que disent pas mal de syndicats, c'est-à-dire que, en fait, le problème c'est l'âge légal depuis le début. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu une espèce d'entêtement sur cet âge légal. Bon, c'était 65 ans pendant la campagne, c'est devenu 64, mais on se dit que si Emmanuel Macron avait un peu lâché là-dessus, quitte à rajouter même une année d'annuité, il n'y aurait pas eu tout ce bazar, on va dire, à l'Assemblée, Jérémy Trottin.
En fait, je pense qu'ils ont regardé la dernière réforme des retraites, le passage de 60 à 62 ans.
La réforme Touraine.
La réforme Fillon. Non, après.
La Fillon, d'accord, oui.
Mais rajouter 2 ans à 62 ans, c'est pas la même conséquence pour les Français, pour les gens qui travaillent, qui ont des conditions de travail difficiles, qui travaillent dans le froid, à l'extérieur, avec des charges, qui travaillent en milieu hospitalier. Les métiers aujourd'hui sont devenus extrêmement difficiles pour certains Français. Et travailler 2 ans de plus, mais à partir de 62 ans, jusqu'à 64 ans, les gens se sont dit, mais ce sera tout simplement pas possible.
Et visiblement, alors si on te dit 44 annuités au lieu de 43, tu vois pas le truc.
Et c'est visiblement quelque chose qu'avaient bien compris les syndicats. Les syndicats avaient prévenu depuis longtemps que le passage à 64 ans allait être extrêmement impopulaire.
Alors, on continue à parler de ça dans un instant avec beaucoup d'éditeurs, avec des messages, avec tous les commentaires des chroniqueurs d'Estelle Midi. On vous dira tout ce qui se passe. On sera devant l'Assemblée nationale avec Sébastien Krebs, Jérémy Trottin, chef du service politique d'RMC. 14h37, pour l'instant, pas de conseil des ministres convoqué. On revient dans un instant sur RMC pour tout vous dire sur cette réforme des retraites. À tout de suite.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
C'est la dernière partie d'Estelle Midi sur RMC, RMC Story avec Rémi Barré, Thierry Moreau, Anne-Sophie Saint-Père, Fred Hermel et Jérémy Trottin, le chef du service politique d'RMC. Il est 14h41. D'ici 19 minutes, on devrait voter la réforme des retraites à l'Assemblée nationale. Mais beaucoup de tergiversations, des téléphones qui chauffent et Jérémy Trottin qui ne sait plus où donner de la tête. Jérémy, essayez de nous expliquer, on en est où actuellement? Je sais que vous avez
c'est
un ministre en ligne.
C'est le brouillard. Ouais, j'ai échangé quelques SMS avec un ministre qui n'est pas à l'Élysée, qui n'a pas été, qui ne fait pas partie des personnes qui sont auprès du chef de l'État et qui lui-même dit que c'est extrêmement confus et qu'il ne connaît pas l'atterrissage. Ça, c'était, il était à 14h35, il y a 6 minutes. Donc, vous voyez, on n'est pas les seuls à être dans le brouillard, dans le flou. C'est vrai que cette décision à prendre n'est pas facile pour Emmanuel Macron. Elle met un petit peu.
Ça fait quand même des mois qu'il devait y penser, non? Enfin, je veux dire.
Bah oui, mais.
Déjà, c'est quelqu'un qui prend les décisions toujours au tout dernier moment, voire après.
Ah, bah il lui reste 18 minutes.
Et au fil des sorts, il ne pouvait pas prévoir. Elle implique aussi des conséquences politiques à long terme et pour la suite de son quinquennat.
Enfin, il voyait bien ces derniers jours qu'il y avait un problème. Oui, excusez-moi, Jérémy.
Sauf que les comptes étaient plutôt. Plutôt favorable ces derniers jours.
Les comptes dont on parle, c'est le nombre de députés LR qui effectivement voteront ou non la réforme des retraites telle qu'elle est.
En fait, ils ont
hier, il y a eu des négociations au Sénat
et une CMP conclusive et avec un vote au Sénat, ils pensaient qu'il y aurait une forme d'élan et que les LR auraient du mal finalement à voter contre massivement à l'Assemblée nationale alors qu'ils ont voté le texte au Sénat.
Et ils l'ont bien
donc ils avaient aussi, ils avaient joué un petit peu sur la cohérence des LR et visiblement,
c'est
pas là-dessus qu'il fallait jouer.
C'est pour ça qu'ils ont fait combien la présidentielle et LR.
Hein, oui, mais ils ont 61 députés, ils ont 62 députés. Donc en fait, ils ont quand même fait beaucoup plus.
Sur le terrain, ils sont actifs. Ça vous désespère ce qui se passe actuellement de Sophie Saint-Père ou au contraire vous trouvez ça plutôt rafraîchissant?
Non, moi je suis complètement désespérée, c'est-à-dire que là en fait on en parle parce qu'effectivement il y a un peu de suspense, qu'est-ce qui va se passer, mais en fait c'est une réforme qui va impacter concrètement la vie des Français et on en est là. Enfin, on en est là. C'est quoi cette façon de faire de la politique?
Ça, c'est de la politique. Je suis désolé. La politique,
c'est la politique politicienne.
Le Parlement est au centre du jeu.
Franchement, pendant 5 ans, on s'est fait chier parce qu'il y avait une majorité tellement absolue qu'il faisait ce qu'elle voulait.
C'est la politique spectacle. Et j'entends que t'aimes ça. Ensuite, il y a des gens qui concrètement sont désespérés de devoir bosser 2 ans de plus. Il n'y a eu aucune discussion sur toutes les autres options qu'il y avait pour financer le système des retraites. Ça aurait été assez intéressant à un moment que Macron soit réellement surprenant et écoute, entende les oppositions, les inquiétudes des Français mais aussi de tous les syndicats et engage des discussions et des concertations et qu'on ait un projet de loi qui soit acceptable et qui réussisse à faire un consensus. Ça pourrait être de la politique. Mais là, on est sur un jeu, comment il va forcer? Est-ce qu'il va forcer les députés LR ou est-ce qu'il va forcer avec le 49-3? C'est pas terrible comme niveau de débat.
C'est de la vie parlementaire. Moi, je ne suis pas désolé parce qu'on voit à l'heure actuelle. Voilà, parce qu'il y a une réforme, c'est pas un truc en bloc, ça a évolué.
Mais on parle même plus du fond, Fred.
Enfin, hier, on a parlé du fond parce que la surcote pour les femmes ayant des enfants,
bien sûr.
Le CDI des seniors, etc. C'est des choses qui ont été apportées au Sénat il y a quelques heures. Donc voilà.
Le Parlement est revenu au centre du jeu.
Ouais.
Un certain nombre de partis, y compris LFI, sont pour une 6e République avec une proportionnelle totale. Je peux vous dire que la proportionnelle totale,
c'est le bordel,
ça implique forcément des discussions entre les partis, des arrangements, des concessions pour arriver à des textes communs. Je trouve qu'au contraire, la vie parlementaire est vive, si elle se fait évidemment dans le respect de chacun, ce qui n'est pas toujours le cas, mais quand il y a comme ça des tractations pour arriver à un texte commun pour le bien commun, pourquoi pas? Moi, je suis
commun qui correspond à plus grand nombre de gens.
Je suis.
Puisque ça correspond à plus grand nombre
de gens. Sur la même ligne que toi.
Là, tu parles de bien commun, mais quand même, il y a 9 Français sur 9 travailleurs sur 10 qui ne voient pas où est le bien commun. C'est étonnant.
Alors Rémi Barré qui a l'œil sur son écran, sur ses multiples écrans et qui essaie de trouver des infos, mais ça ne marche pas.
Nos collègues de l'étage du dessus de BFM TV nous titrent toujours « décision imminente ». Bon voilà,
ça fait 2 heures.
Ça résume bien la situation. Et là, dans la réunion des ministres, des poids lourds du gouvernement, des chefs de la majorité parlementaire est toujours en cours apparemment.
Mais il y a encore le temps pour le conseil des ministres ou pas?
Il va falloir faire attention au chronomètre parce qu'il va falloir rejoindre l'Assemblée nationale
rapidement. Oui, mais bon, le Girophare.
Mais d'après tes calculs,
il n'empêche qu'il reste un quart d'heure.
D'après tes calculs, il y a le temps de faire le Conseil des ministres. Plus on se rapproche de 15h,
il est possible que le Conseil des ministres soit en cours, voire soit terminé, sans qu'on le sache aussi.
Vous le sauriez, Jérémy.
On le saurait peut-être, mais il est aussi possible. Je crois me souvenir que le 49-3, mais je peux me tromper, qui concernait la réforme des retraites en 2019, avait été décidé à l'occasion d'une réunion qui avait été convoquée sur le Covid.
Et à l'instant, BFM TV
sont extrêmement secrètes.
À l'instant, BFM TV annonce que l'option du 49-3 vient d'être validée. Donc ce sera un 49-3. Là, selon BFM TV.
Info BFM TV, c'est quand même...
Un ministre me dit exactement la même chose. D'accord. Là, ce sera un 49-3.
Et là, c'est quand même une révolution qui se prépare, parce que on s'y attendait pas forcément lors de ces derniers jours, où effectivement c'était plutôt la tendance du vote qui prédominait. 49-3 donc pour cette réforme des retraites. On va voir après ce qui va s'en suivre. Est-ce qu'il y aura une motion de censure? En tout cas, c'est un peu le chaos là, Jérémy Trottin.
Faut pas exagérer.
Mais tout dépend ce qui va se passer derrière.
Tout dépend ce qui va se passer derrière. Mais on reste malgré tout, même si c'était le 49-3 peut être jugé autoritaire, on reste dans un cadre démocratique prévu par la Constitution. C'est une façon de passer en force, de passer une réforme très impopulaire en force. Mais ce qui, ça, c'est, finalement, elle va passer. C'est-à-dire que cette réforme, si avec le 49-3, de fait, elle va être adoptée. En revanche, maintenant, c'est les conséquences politiques qu'il y a derrière. Les conséquences aussi sociales. Est-ce que les syndicats vont maintenir la pression et jusqu'à quand?
Laurent Berger a dit oui. Il avait dit oui, même si ça passe au vote. Oui. Donc autant vous dire.
Est-ce que le gouvernement va tomber? Est-ce que le prochain premier ministre aura comme feuille de route de maintenir bec et ongles la réforme qui a été votée ou pas? Enfin, il peut se passer encore énormément de choses.
Parce qu'après, il y a les décrets d'application.
Un urgent de l'AFP. Conseil des ministres immédiat, là, en ce moment même, préalable au 49-3, voilà, selon une source de l'exécutif. Oui, et puis il ne faut pas s'emballer, il faut rappeler que c'est d'arriver qu'une seule fois où une motion de censure a fait tomber un gouvernement.
Oui.
C'est en 1962.
Oui, c'est ça. Et en revanche, bon, quelques statistiques, c'est le centième 49-3, hein? Donc c'est un petit peu l'anniversaire du 49-3 aujourd'hui. C'est le 11e 49-3 pour Elisabeth Borne. Donc voilà. Michel Rocard en avait utilisé 28 ou 29. Voilà. Mais 28. C'était dans un cadre très différent, avec aussi des règles différentes. Aujourd'hui, on peut plus l'utiliser.
Avec beaucoup de tractations aussi déjà à l'époque.
Et voilà. Après, ce qui est un petit peu dommageable dans l'utilisation de ce 49-3, c'est qu'on voit qu'il y a eu beaucoup de négociations avant, avec parfois des ministres qui ont pu appeler les députés eux-mêmes en leur disant qu'ils seraient conciliants sur certains dossiers. Donc ça donnait aussi ce côté pour les Français un peu petit arrangement
politique politicienne,
tout ça pour en plus passer par un 49-3. C'était un peu la double peine.
Puis on peut imaginer que du côté de la Macronie, et notamment du côté d'Emmanuel Macron, on va garder une certaine dent à l'encontre d'un certain nombre d'élus LR. Parce que ce qui pousse là le gouvernement à choisir le 49-3, absolument, c'est le manque de soutien de la part des LR, de la part
du avec qui gouverner et avec qui créer.
Et puis la seule discussion a été avec LR. Il n'y a pas eu de concertation digne de ce nom avec les syndicats, avec d'autres partis. Ça aussi, ça pose problème. C'est quoi ce type de consensus seulement avec la droite?
Alors on est avec Sébastien Chenu, député RN et vice-président de l'Assemblée nationale. Bonjour Sébastien Chenu.
Bonjour.
Alors on ne s'attendait pas, on l'a dit, ces derniers jours au 49-3. On pensait plutôt à un vote avec peut-être une très très courte majorité. Votre sentiment, vous, justement, sur le 49-3, là, on vient juste de l'apprendre il y a quelques secondes.
D'abord, c'est un signe de faiblesse incroyable du gouvernement, qui donc ne réussit pas à avoir la certitude d'avoir une majorité sur cette réforme des retraites à l'Assemblée nationale. Puis c'est un déni de démocratie incroyable, puisque ne pas vouloir faire voter sur ce texte les députés, dans une démocratie, un texte qui engage autant l'avenir des Français, c'est effectivement à la fois brutal, à la fois violent et à la fois antidémocratique. Et je pense qu'Emmanuel Macron est bien finalement dans sa logique. Il méprise les Français, il méprise les représentants des Français et il essaye d'imposer aux Français un texte dont personne ne veut, même pas visiblement une majorité de députés. Et bien entendu, avec Marine Le Pen, nous déposerons une motion de censure pour renvoyer, faire tomber le gouvernement sur ce texte.
Mais excusez-moi, Sébastien Chenu, on sait très bien que votre motion de censure, elle ne sera jamais votée par LFI. Est-ce qu'il n'y a pas plus de chances de laisser la motion de censure centriste de Charles de Courson passer?
Mais madame, nous voterons les motions de censure des autres.
Ah d'accord, alors pourquoi vous en déposez une?
mais parce que nous voulons aussi montrer notre détermination. Nous l'avons fait à chaque fois, mais surtout, nous ne sommes pas sectaires. Nous sommes là pour l'intérêt des Français, pour combattre cette réforme des retraites, et nous voterons toutes les motions de censure, d'où qu'elles viennent, quels que soient les bancs, de façon à ce que cette réforme des retraites ne passe pas. Il faut bien comprendre que le président de la République brutalise encore une fois la France et qu'il porte une lourde responsabilité dans la façon dont notre pays va réagir.
On peut s'attendre à quelle ambiance à l'Assemblée nationale là, dans quelques instants, dans 9 minutes exactement, Sébastien Chenu ?
Je crois que les députés vont être très en colère de la façon dont ils sont traités par la Première ministre, qui depuis qu'elle est en poste ne travaille et ne fait passer ses textes qu'à coup de 49-3. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas capables de faire passer les textes, de trouver des majorités sur leurs textes depuis qu'ils sont élus. Et je vous rappelle d'ailleurs que peut-être que les autres ne votent pas nos motions de censure, mais sans nos votes, sans la voix des élus du Rassemblement national, aucune motion de censure n'a une chance de passer. Aucune. Donc on a besoin du Rassemblement national et quel que soit les gens qui déposent, les députés qui déposent une motion de censure, ils auront besoin des voix du Rassemblement national, ils les auront.
Et vous le dites, vous signerez toutes les motions de censure qu'il pourra y avoir. Merci Sébastien Chenu d'avoir été avec nous, député RN et vice-président de l'Assemblée nationale. Il va se passer quoi maintenant exactement, Jérémy Trottin ? C'est quoi le processus ?
La première ministre va aller devant l'Assemblée nationale pour dire qu'elle engage le 49-3. Et en effet, désormais, ça engage d'autres procédures avec des motions de censure qui peuvent être déposées par les oppositions. Donc on apprend que le Rassemblement national va déposer sa propre motion de censure. Il y a aussi la motion de censure de Charles de Courson, député à Lyotte, qui risque d'obtenir une plus large majorité parce qu'on sait que, a priori, la NUPES ne vote pas les motions de censure déposées par le Rassemblement national. J'ai un échange avec un proche du chef de l'État qui me dit que le président de la République, lui, aurait préféré aller au vote et que la première ministre a voulu engager à sa responsabilité et qu'il ne l'a pas empêché. Donc, ils estiment aussi que le fait de passer par un 49-3 et le fait qu'il puisse y avoir derrière une motion de censure montre que malgré tout, le système démocratique est en place.
Tout à fait.
Donc, qu'il y a la possibilité, malgré tout, s'il y a une majorité pour finalement faire tomber ce gouvernement, voilà, le système démocratique pourrait le permettre. Donc, ils estiment que la décision n'est pas purement anti-démocratique. Donc, voilà, après, je pense.
Et la motion de censure, elle est votée quand ? Elle est votée aujourd'hui, demain ?
Non, alors, vous avez 24 heures dans un premier temps pour la déposer.
Voilà. Et ensuite, elle est déjà prête.
48 heures pour être examiné.
D'accord.
Donc là, il est 15 heures jeudi, 15 heures vendredi. Après, vous avez le week-end, donc grosso modo, en tout début de semaine.
Donc c'est lundi, en fait, que les motions de censure seront votées.
Et là, en fait, c'est à ce moment-là que si une motion de censure obtient 289 voix, à ce moment-là, automatiquement, le gouvernement et la première ministre sont démis de leurs fonctions.
C'est une belle semaine qui se prépare. Merci en tout cas, Jérémy Trottin, chef du service politique, d'avoir passé toute cette dernière heure avec nous et puis d'avoir donné toutes ces infos.
RMC Football. Samedi 4 mai à 15h au stade de la Mosson à Montpellier, c'est la finale de la Coupe de France féminine. Le Paris Saint-Germain affronte le FC Fleury 91 pour un match au sommet. Qui décrochera le titre ? Réservez vos places sur billetterie.fff.fr. PSG Fleury. Finale de la Coupe de France féminine le 4 mai à Montpellier avec RMC.